Et bienvenue dans Paris Central, ça va être le match le plus important de la saison. C'est Dortmund-Paris Saint-Germain, on va parler de tout ça avec nos amis qui certains ont l'air d'avoir dû un réveil très difficile. Ça se voit à leur tête, ils ont fait la fête hier soir. Faut pas faire la fête avant mercredi. D'ailleurs les gars, spécial, venez voir le débrief mercredi à 23h parce qu'il y a une grosse surprise. Donc ne ratez pas le débrief de mercredi. Aujourd'hui, on va parler du match de mercredi, même si on est un petit peu en avance, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Et notamment, là, je voulais vous demander, les gars, est-ce que c'est pas le moment de tester la charnière Hernandez-Marquinhos? Est-ce que c'est pas tard depuis le début de la saison? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça et se débrouiller pour l'arrière-gauche plutôt que privilégier d'avoir un bon arrière-gauche et une défense centrale qui nous a coûté des points, notamment à Nice, par exemple, ou dans d'autres matchs? Est-ce que Dortmund, ça va être le moment de mettre ces deux-là? Je t'écoute, Dries.
Bah, en soi, sur le papier, moi, je préfère toujours avoir un profil stopper et un profil libéro. Donc, je ne suis pas forcément fan de cette association. Maintenant, il faut qu'on la voie, cette association. Et une chose est sûre, c'est que Lucas Hernandez, il a très bien commencé la saison à gauche, n'a jamais eu un profil vraiment de latéral. Donc, ça, on a toujours eu un côté gauche qui s'est retrouvé assez faible. Et d'ailleurs, quand Mukiele a eu des titus à ce poste-là, bah, Mukiele était limite plus intéressant offensivement que Hernandez. Et on sait que Mukiele, son point fort, c'est pas forcément de monter. Et donc, ouais, voir Hernandez derrière, clairement. Pourquoi pas tester cette combo-là, mais je préférerais à la limite voir un Hernandez-Skriniar avec Skriniar de l'autre côté.
Et toi, Rico?
Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas eu vraiment le choix depuis le début de la saison parce qu'on devait attendre aussi le retour de Mukiele. Après, il a été à gauche aussi par la force des choses. Donc, à chaque fois, on a eu certaines réponses par la force des choses et pas parce que Luis Enrique décide de le faire. Là, c'est pareil pour Marquinhos. Est-ce qu'il va être remis de sa blessure pour pouvoir jouer face à Nantes et tester cette charnière? Ça va être compliqué quand même. Pareil pour Dortmund. Donc, je sais pas trop quoi penser. Je pense qu'on va simplement devoir composer avec ceux qui sont physiquement en meilleure forme, tout simplement. Et à mon avis, du coup, ce sera Danilo, Skriniar et Hernandez. Maintenant, est-ce qu'il va mettre Mukiele à gauche et choisir deux parmi ces trois-là? Je sais pas.
Avant de passer la parole à Basto, je vois que Reg, il a fait un commentaire qui est très intéressant, que j'oublie de vous dire à chaque fois. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, en fait, vous pouvez faire un sub sur la chaîne Paris Central Twitch qui sera complètement gratuit pour vous, parce que vous avez droit à vous abonner à une chaîne par mois. Donc, quitte à perdre ça, autant le faire sur Paris Central. Merci les gars. Vas-y Basto.
Ouais, bah on n'a jamais eu la paire Lucas Marquinhos, donc ça va pas être le match où il faut le tenter. Je pense, on a vu contre Monaco, quand on a tenté une nouvelle charnière, Lucas Skriniar qui avait besoin d'automatisme, où les deux n'arrivaient pas à s'aligner correctement, et il y a eu notamment des hors-jeux mal joués. On a vu au Havre une charnière inédite aussi, Mukiele Danilo, qui a mis du temps à se mettre en route, et ça a coûté un carton rouge avant bon, même si Danilo fait un grand match, mais la charnière en elle-même n'a pas vraiment fonctionné. Donc, ce n'est pas le moment de tester une nouvelle charnière. Dortmund, ça va être l'équipe avec le plus de certitude. Et le plus de certitude, c'est l'équipe qui a le plus d'automatisme. Donc, ce sera malheureusement Skriniar Marquinhos. Mais... Enfin, malheureusement. Non, moi aussi, je le ferai aussi sur ce match-là. Parce que ce qui est malheureux, c'est qu'on n'ait pas tenté une charnière plus fiable. A priori, aujourd'hui, même en l'absence de Marquinhos qui serait sur le banc, Lucas est encore arrière-gauche. Donc, Enrique n'a pas trop envie de le tenter, a priori, dans l'axe. Il l'a fait qu'une fois.
Andreas, tu voulais réagir?
Ouais, vite fait, mais moi je répondais vraiment par rapport à Nantes, en fait. Le premier match, c'est quand même Nantes.
Il nous a dit Dortmund.
On parle de Dortmund aujourd'hui, Andreas.
Faut écouter, Andreas.
Bon, alors, je suis à la ramasse, mais en soi, vous n'avez pas envie de le voir à Nantes?
Mais non, le Marquinhos, il ne sera pas remis, je pense, pour Nantes.
Ah, ok, d'accord. Okay,
bon, il va peut-être rentrer, mais de là à être aligné titulaire directement, ouais.
Par contre, j'aurais bien vu Mukiele à gauche et Lucas Skriniar, mais a priori, c'est Lucas à gauche et l'affreuse charnière Danilo Skriniar qui a annoncé ça.
Ça, c'est pas très beau, ça.
Ouais, c'est pas foufou. Ouais. Après, pour Dortmund, si c'est Danilo Skriniar...
Marc, il sera là, Dortmund.
Danilo Skriniar, tu peux pas tenir à Dortmund, je pense.
Ok, bon, bah, vous avez dit tout ce que vous pouviez dire sur le sujet. On va enchaîner sur... possible retour en forme de notre crack parisien, le fameux Zaïre Emery. Il est possible qu'il soit de retour. Là, il a été plutôt annoncé dans le groupe, si je ne me trompe pas. Il sera annoncé dans le groupe de Dortmund. Parce qu'en fait, là, son retour a une question clé. C'est-à-dire que s'il est là, et s'il est peut-être titulaire à Dortmund, quand Gingli, qui était prévu au milieu, ça pose une question. Est-ce que vous mettez Zaïre Emery en titulaire ou est-ce que vous mettez Kang In-Li? Parce que là, pour l'instant, c'était Kang In-Li qui s'était parti pour. Mais est-ce que vous prenez le risque, parce qu'il revient de blessure, est-ce que ça vaut la peine de risquer de blesser le petit? Pourquoi vous rigolez, bande de fous?
Parce que t'es obligé de citer un joueur, mais on voit tout de suite la propagande, quoi.
Quelle propagande?
tu cites Kang In-Li, tu parles pas de Viti.
Regardez Vitinha avec Lee.
Ah, d'accord, ok.
Oui, non, mais pour moi,
si à Warren, tu peux aussi avoir.
Là, c'est ça la question. Je te dis, est-ce qu'il est assez de retour en forme pour être titulaire ou est-ce que tu laisses Kang In-Li et on verra, on lui laisse le temps de revenir au gamin?
Ça dépend si tu laisses le temps ou pas.
Il est jeune. Tu sais, d'une blessure, tu t'en remets beaucoup plus vite quand tu es jeune. Et puis c'est tout bête. Hein. C'est triste à dire d'ailleurs, hein, mais c'est notre meilleur milieu depuis le début de la saison. Donc jeune, donc apte à se remettre très très vite et qui va être solide sur ses appuis, il ne sera pas fragilisé, etc. Moi je le mets toujours. Après, on sait que le staff prend beaucoup de précautions, donc peut-être qu'ils ne le feront pas. Mais si tu me demandes mon avis, c'est notre meilleur milieu. Il est apte. De par son âge, il se remet plus vite que quelqu'un d'autre. Donc, moi, je le mets, je ne réfléchis même pas, en fait.
Alors, écoute, tu avais commencé.
Ouais, pareil, moi, je le mets, sauf si vraiment physiquement, on sent qu'il ne peut pas tenir. Mais à partir du moment où il peut tenir et qu'il n'y a pas d'énormes risques de rechute, pour moi, il faut l'aligner. Et comme je disais, vous verrez dans une autre vidéo, mais au pire des cas, derrière, tu as quoi? Tu as deux matchs de championnat et puis après, tu as une trêve. Et puis, ton gros match de Ligue des Champions, si jamais tu te qualifies, ce sera en février. Donc au pire, si jamais il rechute, il a encore 2-3 mois pour revenir au top. Donc non, perso, je prends le risque. Le risque vaut la chandelle, je pense. Et de toute façon, pour l'instant, il est jeune, il se remet vite, il cicatrise vite. Est-ce qu'il y aura un risque de rechute? Bon, il est supposé quand même moins fragile que certains autres joueurs qui ont rechuté. Donc, a priori, le risque vaut la peine d'être pris. Et puis, c'est notre meilleur milieu de terrain, comme disait Drias depuis le début de la saison. Donc, je pense que dans un match comme ça, ça va être important. Surtout qu'il y a des absents de marque côté Dortmund au milieu. Donc, ça peut être une bonne chose pour Warren.
Réco, vu que tu as commencé à en parler, les gars, mettez la cloche. Et abonnez-vous à la chaîne parce que demain, il y a une vidéo qu'on sort à 11h qu'on a ultra travaillé. C'est un petit bijou avec Rico et Tonton. Donc, à 11h dimanche demain, abonnez-vous et mettez la cloche. Basto.
Moi, je ne le mets pas. On a vu l'année dernière trop de retours précipités. À chaque fois, il y a eu rechute. Un mec comme Moukile n'était jamais blessé. Le staff décide de le remettre assez rapidement après 3-4 jours d'entraînement. Boum, absent 6 mois. Donc, même s'il est jeune, même s'il a une capacité de récupération, on jouerait quand même avec le feu. Tu peux le laisser sur le banc, voir comment le match donne. Et si à la 60e, par exemple, il y a match nul, le faire rentrer dans la dernière demi-heure. Titulaire d'entraînant, je pense qu'il ne rentrera pas. Je pense qu'il ne rentrera même pas contre Nantes, a priori. On verra ce qui se passe. Mais moi je ne prends pas le risque. Et même si c'est un match important, évidemment, mais non.
Moi, je le mets, le match, il est trop charnière. Alors après, tu sais, on n'arrête pas depuis tout à l'heure de parler de match le plus important de la saison. On sait tous ce que c'est au football. Hein. Le match le plus important est toujours celui qui sera à venir. Donc, c'est le match le plus important, c'est quelque chose de très relatif, mais aussi relatif que ce soit, tu te plantes sur ce match, ça te coûte trop cher.
Si on est dépendant d'Emery pour aller gagner
mais à Dortmund, mais c'est le problème.
Donc, tu vas en Europa et tu vas en Europa sans lui, mais tu prends pas le risque de péter le gamin.
Tu l'as dit, la clé. Le problème, c'est que t'es dépendant, le mot est peut-être un peu fort, mais concrètement, Ugarte qui a très très bien commencé la saison, qui nous a tous mis d'accord, on est reparti dans l'illusion, ça y est, on a enfin trouvé notre milieu, etc., etc. C'est de très loin ton meilleur milieu, de très très loin. Et alors après, t'as Fabian qui était intéressant, qui machin, qui truc, qui apportait d'autres solutions, qui avait une complémentarité. Mais là, Fabian se pète. Donc, t'aurais Fabian. Je finis après. T'aurais Fabian dans l'équation. Ouais, je te dirais ok. Mais là, t'as pas Fabian. Pour moi, je prends le risque de le mettre parce que comme le disait Réco, le risque est vraiment minime. Et ensuite de ça, c'est juste ton meilleur milieu.
Mais tu vas te retrouver avec, si tu le mets, tu vas te retrouver, tu vas voir, parce que connaissant Enrique, tu vas te retrouver avec Ugarte Emery et Lee à gauche avec deux milieux, et je préfère avoir un espèce de milieu à trois avec Ugarte Vitinha, et je crois que Lee va le mettre à gauche.
C'est le prochain sujet.
Ah oui, donc
c'est Nix qui est avec sa propagande.
Non, c'est pas du tout une propagande, c'est justement comme vu que vous avez répondu à ça. D'ailleurs, si vous en avez marre de la différence de qualité de son entre nous et Basto, s'il vous plaît, faites des dons dans la description, qu'on lui prenne un bras qui tienne son micro à côté de sa bouche. Parce qu'on sait que.
Il à la main comme un chanteur.
Regardez la différence, vous avez vu. Faut un bras qui lui ramène son micro. Oui, bah, du coup, le sujet qui venait juste après, c'est si vous mettez Zaïre Emery au milieu, du coup, on n'a plus besoin de Lee à ce poste-là. Mais il y a l'absence de Ousmane Dembélé à Dortmund qu'il faut résoudre. Est-ce que vous restez dans un profil ailier dynamiteur avec Kangini, ou est-ce que vous partez sur un profil percussion comme Kolo Muani, ou est-ce que vous partez sur un profil Barcola qui pourra plus combiner, qui est plus à l'aise techniquement, qui aura le côté un peu percussion de Kolo Muani, mais qui aura un peu plus de maîtrise dans ses ballons. Vas-y Basto.
Je reste sur mon idée de Barcola parce que c'est celui qui a le profil en soi le plus proche de Dembélé, que si on a quelques certitudes depuis le début de saison, c'est ce couloir droit avec la relation Hakimi-Dembélé, c'est là où la plupart de notre jeu passe. Donc pour moi, il faut continuer à insister sur un des rares circuits de jeu qu'on a vraiment en permanence tous les matchs. Bon, ce ne sera pas exactement la même chose que Dembélé, mais on aura quelqu'un qui va écarter, quelqu'un qui va provoquer, qui va créer des 1 contre 1 avec Barcola. Si tu mets Colo, techniquement c'est trop faible et cette relation avec Hakimi risque de nous porter préjudice. Asensio, c'est encore un profil complètement différent. Donc moi, je reste sur un profil. Le profil le plus proche de Dembélé, c'est Barcola.
Rico,
pareil. Barcola, c'est pour moi un hybride, on va dire, dans les deux, dans le sens où il a des qualités similaires à Dembélé, il a des qualités aussi où il est plus techniquement meilleur et plus juste qu'un Kolo Muani. Donc personnellement, je partirais sur lui. Il a fait énormément de différence, même si, comme Eve l'a dit, il rate trop, mais il ne ratera pas comme ça à tous les matchs, et à Lyon, il ne ratait pas autant d'ailleurs, il était très juste. Donc non, pour moi, je partirai là-dessus. Et puis si jamais tu as besoin de faire rentrer quelqu'un avec de la vitesse et de la percussion, derrière, tu pourras faire rentrer un Kolo Muani quand derrière ça tire la langue. Et Kangini, tu peux le faire rentrer, notamment pour garder un peu plus le ballon et avoir plus de contrôle dans la dernière demi-heure, par exemple, pour remplacer un Zaïre Emery au milieu de terrain. Mais c'est vrai que je préfère plus le profil de Barcola qui va plus mordre la ligne et permettre aussi à Hakimi de rentrer un peu plus dans ce milieu-là et de s'approcher de la surface, alors qu'un Kangini rentre beaucoup intérieur, donc il pourrait peut-être se marcher dessus, mais en tout cas on aurait peut-être un déficit sur le côté droit où on n'aurait personne pour vraiment prendre ce couloir. Donc personnellement, je suis d'accord avec Basto, j'irai plus sur Barcola.
Et Dryas, avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux aussi rebondir sur le commentaire de Mbappé Kolo Muani qui nous dit... Non, c'est pas celui-là, pardon. Le commentaire de Brad qui nous dit Mbappé, Asensio, Kolo Muani, c'est complémentaire. Qu'est-ce que tu penses de ça, et après réagis.
La problématique de cette phrase, c'est est-ce que à partir du moment où tu mets Kolo Muani, est-ce que le mot complémentaire s'applique toujours?
Voilà. Attends, on va lui mettre un carton. Attendez, je vais juste. hop, carton jaune. Allez.
Puis sérieusement, non, Kolo Muani, la grande problématique de Kolo Muani, c'est que tu as un joueur qui ne sait pas combiner et qui, au niveau des appels, a une palette d'appels qui est extrêmement faible. Donc à partir de là, il peut avoir tendance à faire, pour le coup, le même appel que Kylian Mbappé, à savoir partir devant. Donc j'ai vraiment du mal à voir les deux ensemble. J'attendais Kolo Muani sur l'aile, Les quelques rentrées qu'il a fait sur l'aile m'ont déçu. Il m'a beaucoup plus en fait interpellé, beaucoup plus plu en sortie de banc. En début de match, pour moi, à chaque fois, c'est un peu dur, hein, mais pour moi, à chaque fois, il a été catastrophique. Je vois pas d'autres mots. Et donc, pour moi, le mettre titu, pour moi, c'est juste un no-go. De par son appétence à jouer avec les autres, c'est trop problématique. En sortie de banc, quand l'équipe adverse est fatiguée, utiliser sa puissance physique à ce moment-là, ça devient intéressant. Mais du coup, comme j'ai répondu à ça, j'ai oublié. Ah oui, Barcola. Il y a F qui lâchait un commentaire tout à l'heure sur Barcola en disant que Barcola rate trop. Attention, F, au jugement un peu trop rapide sur un match. Oui, c'était un match important, mais il faut prendre en compte l'âge du joueur, il faut prendre en compte le contexte, où il, sa manière de rentrer, ce qui est attendu de lui, etc., etc., etc. Et pas oublier que, mine de rien, s'il rate beaucoup, c'est qu'il se procure énormément d'occasions. Sa rentrée provoque énormément. Et avant sa rentrée, des occasions, on n'en avait pas tant que ça. Donc, on met vraiment le focus sur tout ce qu'il a rentré, tout ce qu'il a raté, mais on peut aussi mettre le focus sur tout ce qu'il a apporté. Et faut lui laisser le temps, être tolérant au niveau de l'âge. Des buts, il va en mettre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est pas trop tôt pour mettre Barcola, surtout après le match précédent? Dans un monde parfait, jamais tu mets Barcola. La problématique, c'est qu'on est en train de se poser la question, c'est encore un problème d'effectif, on est en train de se dire, oui, on a besoin de Barcola. Et je rejoins complètement Reco et Basso. C'est sur ce match-là, celui qui a le profil le plus idoine pour remplacer Dembélé, en plus Barcola a montré qu'il était très bon à droite, voire peut-être même meilleur, c'est Barcola. Ça ne devrait pas, surtout après son précédent match, c'est lui mettre trop de pression, c'est attendre trop de choses par rapport au joueur, mais de par l'effectif, pour moi, on n'a pas le choix.
Non, moi, je suis pas trop d'accord.
Une question qui n'était pas prévue.
Vas-y. Non, mais pour moi, il faut le mettre dans le sens où on parle d'expérience, etc. Mais justement, le fait qu'il rentre dans un match et qu'il se procure autant d'occasions, ça montre que le gars ne se pose pas de questions, ne se prend pas la tête, qu'il joue son football et au final, ça porte ses fruits. Alors, il a pêché à la finition, mais je ne pense pas que ce qui a fait qu'il a pêché à la finition soit son manque d'expérience ou sa jeunesse. Non, je pense qu'il n'est pas complexé, il rentre bien dans son match, il a joué le Classico aussi, il a été très bon, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon quasiment, c'est un des joueurs qui fait le plus de différence sur son côté, qui joue à gauche ou à droite, donc moi je pense que non, il faut le mettre, et justement il a pu jouer face à Newcastle et faire des différences, donc je ne pense pas que ce soit un problème face à Dortmund, je pense qu'il répondra présent, et pour moi ça peut être la solution idoine.
Mais en fait, quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'il est pas capable. Surtout, pour moi, Classico, c'est même pas le match référence par rapport à ça. C'est vraiment son match contre Lyon, alors qu'il rentre sous une bronca monstrueuse et qui s'en sort en faisant un très très bon match. Pour moi, ce match-là est vraiment le vecteur. Mais maintenant, il a pris le bouillon sur les réseaux sociaux, il a pris le bouillon dans la presse, il a été critiqué, il a été énormément critiqué. Wow. On se souvient des bambis de
Marie. Sur les réseaux sociaux, c'est bon. Il est ultra par les supporters, il est ultra défendu.
Il a quand même pris un petit bouillon à Basso. Il a quand même
pris un petit bouillon. Les gens le défendent, un média comme supporter.
Alors peut-être que je me trompe. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, il a pris un bouillon et par rapport à son âge, c'est pas, tu vois, enfin moi, tu vois, dans un monde parfait, en vrai, si tu as de quoi avoir des titulaires, je le fais plus rentrer en fin de match justement pour lui redonner de la confiance. Et de le faire rentrer en début de match, c'est lui mettre une pression sur les épaules après ce match-là. Ça peut être un peu compliqué. C'est une prise de risque qui est un petit peu trop grande à mes yeux. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que pour moi, on n'a pas le choix en fait.
Ouais, c'est comme ZRM, Riz, c'est qu'au final, tu n'as pas vraiment le choix, quoi.
Il y a justement un endroit où le coach il a l'embarras du choix, parce que c'était pas prévu dans les sujets, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question. En fait, moi j'aimerais pas être à la place de Luis Enrique pour choisir mon numéro 9 face à Dortmund, parce que chacun a des avantages. On a vu qu'on a du mal à ressortir au niveau de ton point de fixation devant. Parce que techniquement, que ce soit Colomwani ou Ramos, notamment face à Newcastle, ils avaient du mal à être en point de fixation et ils perdaient beaucoup de ballons, ils n'arrivaient pas à le tenir. Donc ça, c'est un point pour Asensio qui, techniquement, est au-dessus des deux et qui pourrait faire du bien pour tenir le ballon, par exemple, en attendant que Kylian y fasse un appel. Il garde le ballon 2 minutes avant de le lancer ou de prendre un relais sur Kanginli ou sur Vitinha, peu importe. Et sinon, on a Colomwani, qui connaît la Bundesliga, qui sait à peu près comment les joueurs en Allemagne, il joue. Il a déjà joué contre Dortmund. Peut-être qu'il a des connaissances. Il a été titulaire tous les matchs de Ligue des Champions. Et on a Ramos derrière qui n'a débuté aucun match de Ligue des Champions. Donc là, c'est son désavantage. Après, son avantage, c'est peut-être face à Hummels et Schlotterberg. Pardon si je prononce mal son nom. Peut-être qu'il aura plus d'impact dans cette défense. Comment vous faites si vous êtes Luis Enrique pour choisir? Parce que pour moi, j'ai l'impression que chacun a ses avantages et chacun a des inconvénients. Et du coup, c'est quasi impossible de choisir, vas-y Reco.
Bah, je pense qu'il va faire selon déjà ses idées de jeu à lui et puis après aussi prendre en considération l'adversaire et les failles qu'ils peuvent avoir. Comme tu l'as dit, Ramos n'a débuté aucun match de Ligue des Champions, même si je trouve que lui, pour le coup, pour faire ressortir le ballon, il est quand même plus agile et il y a moins de déchets que Kolo Muani, mais pour le coup, sachant qu'il a démarré aucun match, moi je le vois mal démarrer malheureusement. En plus de ça, c'était Kolo Muani qui avait démarré face à Dortmund la dernière fois, donc je ne vois pas Ramos démarrer malheureusement pour lui. Maintenant, la question se pose sur Kolo Muani et Asensio, et sachant que pour moi, Luis Enrique privilégiera toujours son jeu à lui et sa tactique à lui et ses consignes à lui, pour moi c'est Asensio qui démarrera, sachant qu'il a le jeu complètement pour. Le jeu de Luis Enrique, il performe bien lui individuellement et il fait performer les autres autour de lui. Ça permet aussi à Mbappé de se rapprocher aussi un peu plus de l'axe, d'appeler aussi dans la profondeur, d'être bien servi par un joueur comme Asensio aussi. Pareil pour un Barcola à droite. Donc je pense que c'est pour moi le joueur idéal pour faire fonctionner tes ailiers et puis même pour aider tes milieux de terrain et faire ressortir les ballons. C'est vraiment le profil idéal. Donc j'espère qu'il pourra jouer face à Nantes au moins 70-80 minutes et qu'on le verra en forme pour Dortmund.
Dries, après Basto.
Bah, le truc en fait, si tu veux, c'est pour moi si tu acceptes et que tu prends conscience que tu as dépensé 180 millions d'euros pour rien, bah finalement la décision elle est pas si compliquée en fait. C'est tout bête hein, mais c'est on a vu un Mbappé très intéressant sur les quelques derniers matchs parce qu'il était dans l'axe et Mbappé dans l'axe, bah mine de rien, c'est vachement bien. Et le joueur qui lui permet le plus d'être dans l'axe, bah, c'est d'avoir Asensio dans l'axe, parce qu'Asensio va jouer en faux neuf et va permettre à Mbappé de se recentrer et de tourner même autour. Et voilà, et c'est à ce moment-là où tu es en train d'optimiser les qualités de ton meilleur joueur. Moi, j'enterre pas du tout notamment Ramos, hein, comme Sénix, mais dans l'effectif actuel, par rapport à nos qualités, Mbappé, c'est une arme létale, et cette arme létale, elle l'est quand il peut jouer neuf. Donc, soit associé à un faux neuf, soit neuf directement. Pour moi, il faut arrêter de le mettre sur l'aile.
Monsieur Basto.
Ouais. Déjà, il faut voir si Asensio joue ce soir, parce que s'il se retrouve à jouer titulaire contre Dortmund en n'ayant pas été titulaire depuis 3 mois, ça me paraît compliqué, mais je pense qu'il sera titulaire ce soir. Dans ces cas-là, je privilégie Asensio aussi. Ramos, ça c'est encore un problème de. Quand je lui en parlais il y a quelques temps, le problème de gestion d'Enrique avec ses neufs. Là, Ramos il sort de son match référence contre Monaco. C'était peut-être le match où il a le plus participé, où on a le plus vu, où il trouvait enfin des connexions. Et derrière, il joue pas le match de Ligue des Champions. Il est pas titularisé au Havre. Il est peut-être pas titulaire ce soir. Donc il fait son meilleur match et il joue aucun des 3 suivants. Donc il y a un problème là-dessus aussi pour trouver de la confiance et de la régularité avec les neufs. Et puis de toute façon, même s'il a le choix, on a l'impression qu'Enrique en Ligue des Champions, il tire au sort entre Kolo Muani et Kolo Muani pour savoir qui est son neuf. Donc ça a toujours été Kolo. Il n'y avait pas Asensio dans la balance.
Basto, c'est simple, en face c'est Kolo et pile c'est Muani.
Non, okay. Il n'y avait pas Asensio dans la balance, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, vu que Dries me tire dessus, je vais juste conclure. moi, j'enterre pas Ramos. Moi, je dis juste que c'est un mec qui a besoin d'adaptation. Moi, je compte sur Ramos pour la saison prochaine. Pour cette saison, je compte pas du tout sur lui. Parce que je me rappelle à Benfica, sa première saison, laisse tomber. Et après, il y a la saison de Núñez, il part. La deuxième saison, il est en feu. Je pense pas que c'est un mec qui peut s'adapter direct et planter, en fait. Il faut lui laisser le temps. Et moi, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans ces podcasts, moi, je suis fan de la gestion de Liverpool, qui en général laisse les joueurs arriver tranquillement, ils ne sont pas titulaires, et l'année d'après, ils sont très bons. Il y a quelques exceptions cet été avec McAllister et compagnie, mais en général, même Núñez, quand il est arrivé la première saison, il n'était pas titu. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter, sauf les joueurs qui ont un truc dans leur cerveau qui fait que peu importe tu les mets où, ils performent. Moi, je pense que Ramos, dans sa tête, il n'est pas encore prêt pour jouer au PSG. Après, pouvez dire ce que vous voulez.
Ouais,
hein,
mais... bah après, comme on dit, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et je pense qu'aujourd'hui, le contexte n'est pas favorable pour Ramos et Colomwani, et il l'est un peu plus pour Asensio.
Exactement.
Et après, on va pas épiloguer, parce que voilà. Sinon, ça, on va pas s'en sortir.
On va jamais s'en sortir. Ok. On va parler de monsieur Donnarumma, parce que tout le monde veut en parler. On revient tout de suite. Trois boulettes de suite sur trois matchs de suite, puis deux matchs sans jouer. Avez-vous peur de l'état de confiance de Donnarumma face à Dortmund quand il va revenir? Parce que mentalement, dans sa tête, ça risque d'être compliqué. Je te lance Basto.
Oui, c'était notre crainte après sa première contre Monaco, c'est qu'il fasse comme après Madrid, où il en avait enchaîné sur une grosse période de 2-3 mois, il en avait enchaîné plusieurs, et force est de constater que derrière, il en a refait deux en deux matchs. Maintenant, il a l'occasion de remettre les pendules à l'heure. S'il fait un gros match à Dortmund, il remet tout le monde d'accord pour au moins la fin de saison. Après, Enrique voudra peut-être changer de gardien, avoir quelqu'un bon au pied l'année prochaine, ça c'est un autre débat, mais... Voilà, Donnarumma a une occasion de montrer que finalement il a le mental quand même, malgré ses crises de confiance. S'il sort un grand match à Dortmund, voilà, comme je le dis, tout le monde l'aura remis tout le monde d'accord. Donc voilà, on espère. Je pense qu'il va faire un bon match. J'avais peur qu'il fasse des bourdes après Monaco, ce qui s'est passé. Là, je pense sincèrement qu'il va faire un bon match et c'est un contexte pour lui. Il a pris un rouge, il peut réfléchir un peu, peut-être même. S'oxygéner, là, il va pas jouer pendant, il a pas joué pendant 10 jours, ça va peut-être lui faire du bien.
Darius,
le truc qui est compliqué à comprendre avec Donnarumma, c'est tu le vois contre Milan et à Milan faire un très très bon match. Donc dans un contexte où au niveau mental, t'en aurais plus d'un qui se serait écroulé avec tout le passif qu'il a avec le club. Et enfin tous les actifs d'ailleurs, parce que mais voilà, et le fait qu'il subissait une bronca mais monstrueuse hein, San Siro. Et paradoxalement, mais c'est un joueur, c'est une fois qu'il fait une boulette, il s'écroule littéralement mentalement, et comme le disait Basto, il a besoin de 2-3 mois pour s'en remettre. C'est très compliqué à lire en fait, ce joueur. Après, on sait qu'il a les qualités, son jeu au pied. Pour moi, son jeu au pied, on est un peu injuste avec son jeu au pied. Il n'est pas si mauvais que ça au pied, c'est juste qu'il prend trop de temps et il se tape des petites paniques et il n'est pas rationnel au pied plus que mauvais, j'aurais tendance à dire. Mais bon, sur sa ligne, il est monstrueux, il a les qualités pour. Il faut juste qu'il se remette la tête à l'endroit. Et oui, comme le disait Basto, s'il nous sort un gros match contre Dortmund, eh ben on retrouvera la confiance pour continuer avec lui. On ne va pas l'enterrer. On sait qu'en plus, ces périodes-là, il en a déjà eu. Maintenant, la question va vraiment se poser. Si contre Dortmund, il nous refait une boulette, là, qu'est-ce qui se passe, quoi ?
Rico, je te laisse la parole et en même temps, je te laisse répondre à Shiraz qui dit « Ceux qui disent qu'il faut le vendre et prendre Mike Maignan, qu'en pensez-vous ? »
Il ne faut pas me poser ce genre de questions.
Tu vas énerver Rico, c'est pas lui. Il
m'a dit Mike. Mais après,
Mais bien sûr que j'aimerais et tous les supporters aimeraient, mais malheureusement, Milan ne. Enfin, si, quoique, là, c'est pas un échange avec Milan.
Non, là, c'est pas un échange.
Ouais, c'est pas un échange. Donc, c'est possible. Tu vends Donnarumma, derrière, tu prends Mike Maignan qui n'a pas encore prolongé, c'est possible. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y en avait un qui avait dit échange Donnarumma comme s'il allait retourner au Milan. Voilà. Mais oui, non, mais volontiers. De toute manière, moi, je l'ai déjà dit, hein, cette saison, c'est la saison de test pour Donnarumma. Ça fait un moment qu'il est là, il n'a pas de concurrence dans les pattes. S'il fait une grande saison, il reste. S'il fait une mauvaise saison, il est jeune, il a une valeur marchande, tu le vends, tu prends un autre gardien, point barre. Maintenant, moi, je pense sincèrement qu'on se prend plus la tête que lui. Je pense que Donnarumma, il est très tranquille. Déjà, la boulette qu'il a fait face au Havre, on lui a enlevé beaucoup de responsabilités là-dessus. Luis Enrique a d'ailleurs remis en question la défense. Je pense que la défense elle-même s'est aussi remise en question et savait qu'elle avait ses torts sur l'action. Donc je pense que Donnarumma est très tranquille. Je pense que ça va lui faire du bien aussi de voir que Tenas a fait un grand match, que ce soir potentiellement il peut faire un grand match, ça peut le booster aussi. Mais ça ne lui mettra pas, je pense, de pression, parce qu'il y a quand même des statuts. Tenas n'est pas Navas et il y a des statuts qui font que Gigio jouera toute la saison dans tous les cas. Mais ça va lui faire du bien, comme l'a dit Basto. Il a enchaîné quelques petites boulettes, donc il va pouvoir se reposer un peu, se focus justement sur Dortmund. Parce que là, il est, ça, depuis sa suspension, bah, il n'y a que ce match-là. Il sait qu'il va revenir face à Dortmund. Donc, il est focus sur ce match-là. Donc voilà, moi, je pense qu'il est très tranquille. Des boulettes, ça arrive. Maintenant, c'est sûr que s'il refait une boulette face à Dortmund, on pourra se poser la question. Mais moi, je pense qu'il va faire un grand match. Et le Real s'est passé maintenant, c'était il y a 2 ans. Il s'en est remis. Il a fait des grands matchs depuis. Cette saison, il y a plus de positifs que de négatifs. Et puis, il a fait des grands matchs dans des grands matchs, et notamment face au Milan dans un contexte compliqué. Donc, je ne suis pas inquiet pour ce match face à Dortmund, mais par contre, je pense qu'il y aura d'autres boulettes qui vont arriver, et si c'est le cas, on pourra se poser la question en fin de saison.
Darius, juste avant de te laisser la parole, juste je réponds à Shiraz qui disait est-ce que c'est pas une faute du coach de pas avoir créé de concurrence? En général, le poste de gardien, il faut éviter. On a vu quand on a eu Trapp à Reola, ça s'est mal passé. Qu'on a eu Donnarumma Navas en même temps, ça s'est très mal passé. Tu regardes cette année du côté d'Arsenal, Raya avec, j'ai oublié son nom.
Ramsdale,
ça se passe très mal, parce que je regarde encore Arsenal, Luton, il nous fait 2 boulettes, Raya. Bon, je pense
il est
que
nul, Raya, ça c'est le problème d'art d'état.
pour les gardiens, franchement, vaut mieux avoir un numéro 1. Je te laisse continuer, Dres.
Ouais, mais j'avais entre autres réagi à ce commentaire, mais ouais, après, là, numéro 2 qui allait dans l'ongle, mais il faut clairement que tu aies un numéro 2. Je voulais réagir par rapport à Rico, à ce que disait sur Donna. Pour Donna, tu vois toujours le verre à moitié plein, et c'est une bonne chose, hein. Et c'est une bonne chose, clairement, c'est une bonne chose, et tu envoies de la force, c'est cool. Mais maintenant, il y a un moment où il faut, si tu veux, faut quand même regarder que les dossiers s'enchaînent, et la problématique, c'est que les dossiers n'arrivent pas que dans les matchs qui comptent pas. C'est-à-dire que des boulettes, il t'en faisait l'année dernière, il commence à en faire et il en fait mine de rien dans des matchs qui sont importants et ça va être un problème. C'est-à-dire que c'est si tu veux te projeter sur le moyen terme avec ce joueur, c'est quelque chose qu'il va devoir résoudre. Tu pourras pas, ça passe encore cette saison. Mettons, tu vois, enfin, on est dans le bon scénario, c'est-à-dire qu'à Dortmund, il fait pas d'erreur, etc. Il se remet en track, etc. Mais il te refait la même dinguerie la saison prochaine. Tout à coup, il devient littéralement indéfendable parce que c'est trop, 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 et il te montre qu'il est incapable de franchir ça. Donc, ouais, voir le verre à moitié plein, mais pas oublier que quand même les périodes qui vont pas, ça commence à un peu trop se produire avec lui.
Après. Je discutais avec un ami cette semaine qui déteste Donnarumma depuis le début. Je lui ai dit, OK, on prend qui? Donc, il a cherché comme ça pendant une demi-heure pour voir qui l'année prochaine on pourrait prendre. À l'arrivée, il a fait, en fait, on garde Donnarumma. Le marché des gardiens est ultra pauvre, en ce moment. C'est pas du tout le même qu'il y a 10, 15, 20 ans. On avait des gens fiables. Les plus forts sont déjà dans les grands clubs et quasiment imprenable, et le reste, c'est des gens aussi qui enchaînent des boulettes, et parfois plus que Donnarumma. Même un Alisson, il va en faire 10 par an. Un Ederson, il en fait. Un Onana, regardez ce qu'il fait à United après avoir fait sa saison l'année dernière à l'Inter. Donc, à l'arrivée, oui, Donnarumma fait des bourdes, espérons qu'il ne le fasse pas dans les grands matchs, mais ça va être très compliqué de trouver meilleur.
Ouais, tu regardes en Première Ligue, c'est un festival, hein, et pourtant, il y a des grands clubs.
Festival de clowns. Je ne sais même pas s'il y a un bon gardien en Première Ligue, parce que tout ce qu'on a mentionné là, au moins quasi un match par chaque semaine, il y en a un qui fait une boulette.
Ah, celui qui fait le moins de boulettes, c'est peut-être Vicario cette année. Qu'il en a fait une.
Ah non, j'ai regardé.
Martinez n'est pas mauvais à Villa. Hein. Il est sous la lignée de sa Coupe du Monde.
Ouais. En fait,
il en a fait une grosse il n'y a pas longtemps. Mais...
Ouais, balle au pied, par contre, il est excellent. Je savais pas qu'il était aussi fort. Quand je regardais City Villa, j'ai fait les relances qu'il fait, c'est terrible. Parce que je me disais qu'il était surcoté, mais en fait, c'est juste sur sa ligue, il n'est pas très très fort. Mais joué au pied, il est exceptionnel, ce mec. Ok.
Je voulais réagir, parce qu'il y a quand même pas mal de Tenas. Attention, hein, Tenas, il a fait un match. Ça parle de lui saison prochaine, etc. Il a fait un match et il a fait des très bons arrêts, mais il a aussi des arrêts avec certains, notamment un avec un maximum de réussite. Son jeu au pied, tout le monde s'est enflammé. Je pense que, enfin, moi, j'ai vu le match, j'ai pas pu le voir en direct, donc je l'ai vu en différé. Il était meilleur au pied que Donna, mais c'est pas non plus, on n'était pas non plus à Neuer. Et attention à l'enflammate sur Tenas. Hein. Pour l'instant, il a fait un match. On va attendre qu'il en fasse plusieurs. Pour l'instant, il est encore très, très loin de Donnarumma.
On aura un vrai test à Lille pour lui. Déjà contre Nantes, mais à Lille. Lille PSG, Tenas, s'il sort un gros match et qu'il a confirmé contre Nantes, ce sera déjà pas mal.
Ouais, non, mais carrément. Mais après, Tenas a beaucoup de potentiel. Et pour ceux qui pensent qu'il est arrivé parce qu'il était indésirable au Barça, je ne sais pas si vous avez vu le match du Barça de Iñaki Peña. mais c'est un monstre. C'est un jeune gardien, c'est un monstre. Et c'est pour ça que Tenas était numéro 3 et lui voulait être numéro 2. Et c'est pour ça qu'en gros, ils l'ont libéré de son contrat et qu'il a signé au PSG. Et c'était voulu par Luis Enrique. C'était aussi le gardien de la sélection Espoir. Donc, c'est quand même un bon gardien qui a beaucoup de potentiel.
Enrique l'avait même appelé en A hein, une fois.
Ouais, c'est vrai. Donc, faut voir le match de Nantes, faut voir le match de Lille. Et ça peut être une solution à moyen long terme. Mais pour l'instant, il y a Donnarumma, il y a des statuts et ça ne bougera pas.
Oui, puis indépendamment des statuts, Donna a tout simplement beaucoup plus prouvé que Tenas. C'est-à-dire que c'est indépendamment du statut, quoi. C'est juste il est au-dessus pour l'instant. Ça ne veut pas dire que, comme tu le dis, hein, Tenas peut tout à fait progresser. Mais on n'y est pas encore.
Bon. Oh la vache. Alors, on devait parler de Barcola, mais vous l'avez déjà fait le sujet. je voulais poser la question, est-ce que c'était un accident face à Newcastle ou est-ce qu'il n'était pas prêt pour les grands matchs? Vous avez déjà un peu répondu à la question, donc on va passer au sujet suivant. Est-ce que vous gardez la même compo face à Nantes et face à Dortmund pour, mine de rien, créer des automatismes entre pas mal de joueurs qui n'ont pas joué ensemble régulièrement, notamment Asensio ou quand Gignier a un autre poste, par exemple? Ou est-ce que, par exemple, là, samedi soir, vous mettez Dembélé parce que, je sais pas, vous voulez gagner contre Nantes et ce sera une autre compo mardi. Vas-y, Réco.
Oui et non. Asensio, oui, parce que je pense que là, ça y est, il est bien revenu, il faut qu'il démarre un match. Et je pense que ce sera lui face à Dortmund, donc il faut le faire démarrer au moins 70 minutes. Maintenant, Luis Enrique a toujours changé de composition d'un match à l'autre. On a eu une répétition générale avec Monaco avant Newcastle et au final, il a changé de composition aussi lors du match face à Newcastle. Donc, dans tous les cas, il change tout le temps. Donc non, je ne pense pas qu'on verra le même 11 et je ne pense pas qu'il faille forcément mettre le même 11. Après, il y a certains joueurs qui doivent retrouver des sensations, que ce soit Asensio, Zaïre Emery, peut-être même Barcola, qui soit titulaire ou pas, mais qui doivent jouer un peu plus parce que de toute façon, on ne pourra pas compter sur Dembélé. Donc oui, le match de Nantes doit être utilisé pour préparer Newcastle, Dortmund, mais de là à mettre le même 11, absolument non, et de toute façon, Luis Enrique ne le fera pas.
Basto et ensuite Reyes.
Ouais, je pense comme Recoba, juste des joueurs qui, si Enrique les compte sur titulaire contre Dortmund, les mettre contre Nantes comme Asensio, peut-être même comme le couloir droit, hein, c'est vrai que voir la relation, que ce soit qui met Colo ou Barcola, s'il veut travailler la relation avec Kimi avec un des deux, peut-être le mettre ce soir, mais c'est à peu près tout, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt, Nantes ne joue pas du tout comme Dortmund, donc de toute façon ce sera complètement différent.
Et ils ont tout dit.
t'as rien de t'a rajouté?
Non, bah non, mais c'est vrai, oui, voilà, c'est les problématiques de tous les clubs, c'est-à-dire que c'est à la fois redonner des joueurs des automatismes aux joueurs qui en ont besoin sans prendre le risque de la blessure, etc., etc. On sait que par rapport à ce que tu disais, Asensio, c'est pas un problème parce que la qualité, le propre d'Asensio, c'est de savoir jouer avec les autres, c'est même l'essence de son football en fait. Donc à partir de là, Asensio, t'as pas besoin de ça, mais il y a d'autres joueurs où il y a besoin et voilà, et puis il y a des trucs, tu vois, par exemple, tu parlais de Lee, c'est tu vas pas changer les problématiques de Lee en un match, tu vas pas rendre Lee prêt pour Dortmund parce que tu l'as fait jouer avec nous. Lee, c'est un déficit athlétique qui est clair. Dès que athlétiquement ça pousse et que il peut pas suivre en fait. Et donc ils ont tout dit en fait, ils ont juste tout dit.
Mais donc pour toi, ce serait pas entre guillemets con de mettre Dembélé face à Nantes, sachant qu'il ne va pas jouer face à Dortmund, tu n'essaies pas de travailler une relation, par exemple, Gignier à droite?
Oui, là-dessus, oui. C'est le truc, c'est oui, en effet, j'avais pensé ça, puis j'avais oublié. C'est le petit truc, c'est effectivement, tu n'as pas besoin de Dembélé contre Nantes. Tu as des joueurs qui ont besoin de trouver une assise sur la droite, que ce soit, mais pour moi, je mettrais Barcola, donc que ce soit Barcola qui mine rien, pour l'instant, n'a joué qu'à gauche, et donc a des repères à gauche, et donc avoir une assise sur la droite, Parce qu'effectivement, Dembélé, ça ne sert à rien de toute façon. Et en plus de ça, bah, offrir un petit peu de temps de repos à un Dembélé à qui tu as demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis le début de la saison. Je ne sais pas si... Enfin, je n'ai pas les stats, mais peut-être qu'il n'a pas dû louper une tonne de matchs, hein, Dembélé. Et donc, lui offrir une vraie plage de repos d'une semaine et demie, surtout quand, pendant la trêve, Dembélé, il ne se repose pas, il va en équipe de France, bah, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, ouais, c'est le seul où Dembélé, effectivement, je le mets sur le banc. Ce n'est pas utile de l'utiliser.
Eder Paqueta qui nous dit qu'il voit une finale Roma-PSG en finale d'Europa League.
On en parle tout à l'heure de ça.
Bah, il oublie Liverpool, il oublie Leverkusen. Si Rome arrive en finale cette année, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème.
Ce que tu dis, c'est qu'on a sorti Liverpool en demi et Leverkusen en quart.
Ah, sacré parcours. Ça, limite, ça redore ton blason de t'être fait éliminer si on en arrive là. Ok. Ensuite, c'est comment on va battre Dortmund selon vous. Petite vidéo que
manifestation.
Non, mais pour vous, ce serait faudrait jouer comment, parce que on a la même question qui se pose à chaque fois. C'est comment on devrait jouer et comment Luis Enrique va jouer. C'est ça le problème. Est-ce que Dortmund, on sait que c'est une équipe qui joue beaucoup en contre. Et vrai combat, tu vas passer sur ce sujet parce que vu dans la vidéo qu'on va parler demain, on va sauter ton tour, c'est pas grave.
Mais
Dries et Basto, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Très rapidement, moi j'aimerais 4-3-3 et il mettra un 4-2-4. Et je m'en reviens, j'ai un petit truc à faire, je suis là dans 2 minutes.
Vas-y Basto, on t'écoute.
De toute façon, non, je pense pas qu'il va changer ce qu'il fait ces derniers temps en Ligue des Champions. Il ne refera plus le vrai 4-2-4 qu'on a vu à Newcastle. C'est pour ça que j'ai fait
manifestation.
Non. Et je suis de la gauche, monsieur. J'assume. Il manque juste le sandwich merguez à la main et la petite bière là pour faire les CGT. Je disais, je pense pas qu'on verra le 4-2-4 très clair avec 4 purs attaquants qu'on avait vu à Newcastle. Mais ce 4-3-3, 4-2-4 hybride qu'on a maintenant à chaque fois. Après, comment jouer ce Dortmund-là? C'est très bizarre, ça va vraiment dépendre de Dortmund, parce que Dortmund en soi est déjà qualifié. Dortmund a un calendrier là où ils ont énormément joué, ils sont peut-être essoufflés. Est-ce qu'ils ne vont pas lâcher le match contre Paris? Tu vois, ça c'est aussi une question. Donc je pense que ça dépendra plus de l'adversaire, comment on va adapter nos tactiques. Après, on a bien vu, hein, tu pars avec une tactique au Havre et puis tu as un rouge et tu finis à avoir 30% de possession. Donc, je sais pas si on va vouloir jouer en contre, en maîtrise. J'en sais rien du tout, en fait.
Le truc, en fait, c'est qu'on sait une chose, c'est qu'Enrique, il est têtu. Alors, j'ai pas entendu ce qu'a dit Basso, j'espère que j'ai pas répété la même chose. Mais voilà, Enrique, il est têtu, donc il a pas changé. Mais pour moi, on devrait jouer en 4-3-3. Surtout, après, ça dépend si on compte absolument sur Asensio, je peux envisager autre chose. Mais même avec Asensio, en fait, c'est juste que si tu joues en 4-3-3 avec Asensio et Mbappé, tu fragilises quand même une aile. Mais 4-3-3 avec Mbappé en pointe, là où on a des certitudes. Et un milieu à 3, alors un milieu à 3 qui manque un peu de créativité, mais Ugarte, Warren et Viti, Viti mine de rien, on l'utilise en permanence, c'est lié, c'est pas là où il est fort. Il fait des très bonnes rentrées, mais quand il est titu mi-ailié, mi-8, bah, c'est pas là où il est fort, il faut le mettre en 8, c'est son poste, c'est un milieu axial. Et je ferai ça, mais ça sert à rien de le vouloir, puisque de toute façon, Enrique le fera jamais. Et donc Enrique fonctionnera avec un 4-2-4 et bah, il continuera de jouer comme il joue. Et puis après, j'ai entendu sur la fin, Basso, il dit oui, c'est effectivement, hein, quand on prend un rouge, on finit avec de belles lignes de 4 et etc. Et avec un Mbappé seul devant, mais c'était très circonstanciel. Il ne faut pas oublier que sur ce match-là, où on se fait bouffer dès le début du match, on est encore en 4-2-4.
Ok, bah, ce serait le parfait moment pour instaurer le nouveau carton qu'ils veulent mettre. Dans le football, le carton blanc, parce que justement, deuxième jaune, ça va être relou pour le reste de l'émission. Mais tu n'as pas suivi le plan, parce que la question de maintenant, tu ne pourras plus y répondre. Quel compo mettre face à Dortmund? Et là, je vais te lancer, Récobor. Quel compo et quel système, toi, tu mettrais face à Dortmund?
Moi, je partirais sur ce, sur ce 4-2-4, mais avec Vitinha qui couvre, on va dire, le côté gauche, qui est vraiment milieu axial gauche-gauche. parce que ça se transforme tout le temps de toute façon en 3-4-3, une sorte de 3-4-3, 3-5-2. Voilà, c'est un peu avec même Mbappé qui se réaxe, donc c'est, ouais, c'est plus 3-5-2 limite. Mais je partirai avec Didio, je partirai avec Mukiele et Hakimi sur les côtés, je partirai avec une charnière centrale Hernandez, Danilo. Personnellement, je préfère Danilo que Skriniar. Maintenant, Skriniar a plus d'automatisme, donc bon, ce sera Skriniar, mais ouais, Hernandez, Skriniar. Après, si Marquinhos revient de blessure et est bon, bon bah, on peut tester cette charnière, mais je pense que ce sera Hernandez, Skriniar. En tout cas, perso, je préfère voir Hernandez dans l'axe et Mukiele à gauche. Au milieu de terrain, Ugarte, Vitinha sûr. Après, si Emery est dispo et peut jouer, pour moi, il doit jouer. Même si on prend un petit risque, pour moi, il faut le prendre. Tu dois absolument aller chercher la qualif et tu as besoin de Warren, c'est comme ça. Maintenant, devant, perso, je mettrai Asensio en 9 et Mbappé à gauche et Barcola à droite.
Ok, Basto, du coup.
Ce que moi je ferais, parce que ce ne sera évidemment pas ce que fait le scénario. Donnarumma, Lucas, Hakimi sur les ailes, Marquinhos, Skriniar derrière, milieu, Ugarte, Vitinha, Lee, attaque, Asensio, Mbappé, Barcola.
Derrière, tu as déjà répondu, mais vas-y.
Oui, je ne réponds pas à la question, si c'est autre chose. C'est autre chose, justement. Je voulais réagir à Rico qui met Danilo en centrale.
Je tiens à dire que je reste avec lui aussi. Je mets Danilo à la place de Skriniar.
Ça veut dire que tu acceptes de subir.
Comme ça, tu as deux personnes à attaquer, Dreyas. Comme ça, tu as deux personnes à attaquer, voilà. Rico et moi. Voilà.
Et en fait, pendant très longtemps, j'étais un grand, grand avocat de Danilo, notamment dans les débats qu'on pouvait avoir avec Basto. Et en fait, c'est le dernier match où il a enfin convaincu. Il a réussi à me convaincre sur Danilo. Et c'est vrai que on a un Danilo qui brille, mais il a brillé de mille feux hein, sur le dernier match. Quand il y a aucune structure, quand c'est le bordel, il va être capable de calmer le truc, d'éteindre le feu, d'être là où il faut, etc. Mais dès qu'il y a une structure, t'as l'impression qu'il est bloqué par la structure, et tout à coup, il devient bien moins efficace. Et du coup, je trouve que Danilo, il y a une emballade, en fait. Il y a une emballade sur oui, c'est un bon joueur, mais c'est un bon joueur qui va vachement bien jouer quand tu joues mal. Et dès que tu joues bien, bah, c'est quand même plus délicat. Tu as l'impression qu'il est engoncé. Tout à coup, il met 3 ans de plus à se retourner. Tout à coup, il est moins souvent là où il faut être. Et y a un truc, c'est sur Skriniar, c'est tout bête, hein, mais on n'a pas encore essayé du bon côté, Skriniar. Donc, ce serait bien de le voir du bon côté.
Si, on a déjà vu jouer à droite, c'est mieux, mais... C'est pas ouf.
Il jouait avec qui quand il jouait à droite?
Lucas
Hernandez.
Contre Monaco. Ah, okay. Mais on l'a vu en match. Hein.
Okay. Bon, moi j'ai plusieurs contre-arguments, après je laisse à Rico. Premier argument, le soir je fais des cauchemars. J'ai des visions de Dan Burn qui saute sur les épaules du Skriniar et qui le bouffe. Et j'ai un autre flashback encore, dans notre match encore, c'était Milan, où il regarde Léao faire une bicyclette, où il se fait bouffer encore par Olivier Giroud dans le dos, et moi je fais des cauchemars de ça tous les soirs. Donc en fait, moi je préfère Danilo qui, dans les duels, et physiquement, il va être plus solide, et il apporte plus de garanties, parce que déjà, sur coup de pied arrêté, on est faible, donc moi ça me rassure. Et deuxièmement, il a une capacité de relance qui est bien au-dessus de celle de Skriniar. Oula. Donc, si. C'est qui m'a dit non?
C'est moi. C'est moi, j'ai dit oula. J'ai pas dit non, j'ai dit oula.
J'ai beaucoup aimé le si de Nyx. Tu sais, t'as fait oula, il a fait si.
Ouavre, il fait un grand match défensif, mais ses relances, elles sont toutes en touche. Hein,
non, mais Danilo, il a un jeu long que Skriniar n'a pas. Voilà. Et qui peut être très intéressant pour contrer l'équipe qui va jouer en contre, qui est Dortmund. Vas-y, je te laisse, Rico.
Ouais, je suis d'accord. Pour moi, Danilo offre plus de garanties déjà dans les duels gagnés, qu'ils soient au sol ou aérien, alors que Skriniar, normalement, c'est censé être le style de joueur qui remporte ces duels-là en tant que stopper, comme Danilo. À la relance, je préfère Danilo aussi. Balle au pied, je préfère Danilo. Techniquement, je le trouve quand même un peu plus sûr. Alors oui, on n'est pas sur du Lucas Hernandez ou du Marquinhos, mais je le trouve plus sûr. Et je trouve ça dur de juger Danilo, on va dire, sur des matchs où on serait mieux organisé cette saison, etc. Alors que Danilo a très très peu joué cette saison. Il sort l'année dernière où ça a été le meilleur joueur défensivement.
Sur tout Danilo PSG, hein, pas que sur cette saison. Il fait ses meilleures performances au Galtier quand t'as un PSG qui ne vaut rien.
Mais à quel moment on a valu quelque chose?
C'était ça la question.
Laisse-le finir, tu le répondras après.
Mais du coup, le problème, c'est qu'on ne lui a donné aucune continuité cette saison. On a installé Skriniar, qui, on est tous d'accord pour dire qu'il est défaillant, mais on ne veut pas donner sa chance à Danilo, qui a été bon à chaque fois qu'il a joué. Et en plus de ça, dès qu'il a, il joue cette saison, on en attend beaucoup parce qu'on reste sur l'image de l'année dernière, alors que pour le coup, il a très très peu de temps de jeu, il n'est pas en confiance, et pour autant, il fait un gros match face au Havre. Donc perso, avec toutes les garanties qu'il offre de mieux que Skriniar, je partirais sur lui, ce serait mérité au vu des performances de Skriniar et les siennes.
Je ne suis absolument pas d'accord. Danilo est cataclysmique tous les matchs cette saison, à part le dernier. Et quand je dis cataclysmique, c'est pas possible.
Mais il joue jamais.
Mais tu rigoles, il a joué 6 ou 7 matchs.
Il joue jamais et il a été aligné avec Skriniar.
Ah oui, bah dans ces cas-là, on peut dire que Skriniar, il a été aligné aussi 6 fois avec Danilo, donc on ne le juge pas.
Skriniar, il a été annulé. Il a été aligné avec Hernandez.
L'année dernière,
Danilo, on dit ouais, heureusement qu'il est là, mais à l'arrivée, il ne fait pas une meilleure saison que Ramos, Nick Marquis. C'était les trois qui étaient assez faiblards. Danilo, quand il rentrait au milieu de l'année dernière, c'était catastrophique. D'ailleurs, c'est plus qu'un décès. Non, Danilo, c'est pas fiable, pas plus que Skriniar. En faire un joueur meilleur et plus fiable que Skriniar, non, les deux sont pas au niveau, c'est tout.
Le contre-argument, c'est exactement ce qu'il dit Pasquale que je voulais dire. Danilo, il a des matchs ref avec nous en Ligue des Champions.
Ouais, mais au milieu, en 8, où il s'occupait que de la zone. C'était sous Pochettino. Tu avais les deux milieux relanceurs Verratti Paredes et Danilo n'avait qu'à jurer un space sur le côté droit en espèce de 8 relayeurs droit. Et ça, c'était tactiquement parce qu'on ne voyait pas son pied. Donc, il était là que pour les duels aériens et pour la défense dans une zone où sa lenteur était moins préjudiciable que derrière.
Et j'ai une question, moi. Ça ne vous chagrine pas d'avoir un joueur qui brille à partir du moment où tu n'es pas bon?
En soi,
quand tu te poses cette question, c'était une question rhétorique, j'ai la réponse.
Ah, ok, d'accord.
En soi, si tu devrais pas, par principe, ne pas jouer avec ce joueur pour essayer de trouver des solutions pour ne serait-ce que jouer mieux. Danilo, je suis d'accord avec vous, il a éteint des feux quand il fallait éteindre des feux. Il a été là quand il fallait être là. Il y a eu des moments où clairement tu pouvais compter sur lui. Et c'est vrai. Et là-dessus, c'est vrai. Je veux dire, il est là quand t'es pas bon.
Ouais, parce que si c'est le défenseur le plus faible d'une équipe du PSG qui prend 50 buts en 38 matchs l'année dernière, je veux bien, mais bon.
Alors, pour vous répondre, les gars, il y a quelque chose de récurrent que j'ai vu sur tous les matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On a des temps faibles de fou, et dans ces temps faibles-là, à chaque fois, on a pris des buts. Justement, le joueur qui doit faire le taf quand on n'est pas bon pendant ce temps faible, c'est Danilo, parce que Skriniar, quand on était dans ses temps faibles, on a encaissé des 3-4 buts. On a encaissé des buts dans les temps faibles. Donc, en fait, tu me dis qu'il n'est pas bon ou qu'on n'est pas bon, mais forcément, face à Dortmund, il va y avoir 15-20 minutes où on ne va pas être bon. Parce que ça a été fait à chaque match. Pendant ces 15-20 minutes-là, est-ce que Skriniar apporte des garanties pour qu'on ne prenne pas de buts? C'est ça ma question.
Tu oublies le corollaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il va être là quand tu n'es pas bon, mais il va aussi te coûter quand tu seras bon. C'est-à-dire que, ouais, voilà, c'est à quoi tu renonces en fait? À quoi tu renonces? Alors toi, tu préfères utiliser la stratégie prendre un but de moins. Moi, je suis en train de te dire, si jamais on essayait de mettre un but de plus. Et en fait, le débat tel que tu as présenté, la façon avec laquelle tu as amené ton argumentaire, ça revient à dire ça. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où on va prendre le bouillon, il nous faut monsieur qui nous sauve quand on prend le bouillon. Mais par contre, dès que tout à coup, tu vas commencer à avoir une maîtrise de balle, tu vas avoir ce temps d'avance, alors après, là où je peux te rejoindre, c'est qu'on n'arrive pas à maximiser, etc. On n'arrive pas à se procurer tant d'occasions que ça, en tout cas pour l'instant, et ça te donne raison. Mais d'un autre côté, tu vas avoir des périodes où tout à coup tu vas commencer à avoir une maîtrise de balle et à la moindre perte de balle quand t'es dans une période de maîtrise, Danilo il brille pas et au contraire il te coûte.
Je peux répondre à Serge Bian si on met son message. Nix.
Arrête de défendre. Ok.
Parce que déjà faut ouvrir ses oreilles. J'ai pas défendu Skriniar, j'ai dit qu'il était aussi mauvais que Danilo cette année. C'est juste que je ne défends pas votre Danilo. Là, on est Danilo, il s'est passé de joueur le plus injustement critiqué il y a 2-3 ans à le chouchou pas bon qui devient le joueur le plus surcoté du PSG. Il y a eu une espèce de balance comme ça avec Danilo.
Bah non, c'est ses performances, c'est factuel. Mais il non, a mais été l'année dernière, le meilleur l'année défenseur dernière, l'année dernière.
50 buts, je te dis que Kimpembe, Ramos et Marquinhos qui prennent très cher ne font pas une plus mauvaise saison que lui. C'est juste qu'on attendait plus d'eux, qu'on attendait moins de Danilo. Et donc, du coup, on dit, oh, Danilo, il est bon par rapport à ce qu'on attendait, ce qu'on avait de lui d'avant. Ouais. Et Marquinhos n'est pas à son niveau par rapport à ce qu'il a montré avant. Mais si on les met sur la même liste, c'est-à-dire qu'on estime qu'ils ont tous le même niveau de base et qu'il n'y en a pas un qui doit être plus fort ou pas, ils font une saison qui est équivalente et qui n'est pas bonne.
Mais, et cette année, Skriniar, il t'offre moins de garanties dans les duels aériens, dans les duels au sol, dans les moments décisifs. Il n'a pas de leadership, contrairement à Danilo. Et pourquoi on mettrait Skriniar ? Il a joué avec toutes les charnières, il a joué depuis le début de la saison, tous les matchs, il est en confiance avec Luis Enrique, etc. Il n'a pas sorti un seul match référence. Danilo, des matchs référence, on peut en sortir plusieurs. Donc, si alors on part sur le principe qu'on prend le... on le met d'essai. Si on part sur le principe qu'on doit choisir le moins mauvais, si vous voulez, bah c'est Danilo.
Alors, Skriniar, tu dis qu'il n'a pas de match référence. Tu le disais toi-même au début de podcast, c'est on a dû bricoler. On a dû bricoler avec Lucas Hernandez à gauche, etc. Et mine de rien, la charnière... Non, mais la charnière, elle a tout le temps été en tension, etc., etc. Il s'est retrouvé plus souvent que raison, pas forcément sur son côté. Et si tu veux, tu l'as pas encore vu dans des associations qui étaient positives par rapport à son style de jeu. Donc là, moi, je suis pas en train de te dire, ce que disait John Wayne, je sais plus comment il s'appelait, etc. Mais je suis pas en train de te dire que Skriniar fait une bonne saison. Mais quand tu l'enterres et que tu dis il jouera jamais bien, enfin tu dis pas ça, mais quelque part tu sous-entends ça et que tu fais intervenir une notion de mérite, pour moi on est trop tôt, pour la faire intervenir. Et encore une fois, reste ce point-là, c'est je pense à terme, je pense qu'un Skriniar te coûte moins cher quand tu joues bien qu'un Danilo.
Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, quand on joue bien, c'est que en fait nos défenseurs avec le système de Luis Enrique, vu comment on joue haut, on va les voir principalement quand on va jouer mal. Donc,
Quand tu joues bien,
c'est là qu'ils vont être en difficulté.
C'est toute l'organisation de l'équipe et c'est toute l'adaptabilité de l'équipe dans son ensemble qui va te permettre de bien jouer. Et donc, l'impact des centraux, indépendamment du fait que tu les vois et que la balle est au niveau d'eux, vont avoir un impact majeur dans ton organisation à partir du moment où tu joues bien. Et justement, pour ça, d'un niveau,
Et combien de fois cette saison on a vu Skriniar se faire manger, on l'a vu faire aucun retour défensif à un moment donné.
Mais combien de fois tu as eu Danilo dans les matchs où tu n'es pas en train de prendre le bouillon comme c'était le cas du dernier match qui, comme Basto le rappelait, c'est son seul bon match de la saison. Combien de fois tu as vu Danilo, en dehors de ce match-là, tout à coup faire une passe directe en touche, la balle elle passe à un mètre, il a même pas pris le temps de se retourner, de voir ce qui se passe et d'être complètement à la ramasse. Et il y a des matchs, moi, où j'ai vu Danilo, je me suis dit, mais attends, est-ce que tu le vois sur le terrain, mais il servait littéralement à rien. Et bien plus que Skriniar. Ses pires matchs de Danilo cette saison sont plus bas que ceux de Skriniar, pour moi.
Bon, les gars, ça fait 10 minutes qu'on est sur le sujet. On va terminer par les questions-réponses. Posez-nous des questions. Il vous reste à peu près 5-10 minutes. Après, on va couper. On va se donner rendez-vous pour le débrief ce soir à 23h05. Donc, posez-nous des questions, les gars. J'avais déjà noté comme question Shiraz qui nous avait dit quel gardien que Luis Enrique aurait pris recruter s'il avait le choix. C'est qui le gardien idéal pour Luis Enrique?
Déjà, il a choisi Tenas comme numéro 2, c'est lui qui a voulu le faire venir. Mais après, c'est une question difficile, comme l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais le marché des gardiens, c'est compliqué. Basto, je crois. Basto. Le gardien qui correspond le plus, on va dire, c'est Ederson, parce que c'est celui qui joue le mieux au pied, on va dire, mais c'est compliqué comme question.
Des Ter Stegen, des mecs qui sont bons au pied, quoi. Maignan, il aurait kiffé, pour le coup.
Pourrait recruter parce qu'il joue qu'à Bilbao, mais...
Onana s'est écroulé, Onana...
Onana Simon, je parlais, pas Onana.
Mais il y a Onana aussi qui s'est complètement écroulé depuis son retour de blessure qui ressemble plus à rien. Mais le Onana.
J'ai jamais été blessé, Darius.
Que moi j'ai. Bah oui, suspendu.
Parce qu'il fait la meilleure saison de sa carrière l'année dernière après sa suspension.
À l'Inter, après la suspension. Ah, ouais.
Mais en gros, moi, le Onana, moi qui m'avait hypé de ouf, qui était le Onana de l'Ajax, ce joueur-là, il aurait été complètement compatible avec Luis Enrique.
Ouais, celui de l'année dernière aussi à l'Inter, hein, c'est le meilleur goal.
Je ne l'ai pas vu.
Il y a Rida qui nous dit, vous pensez quoi d'un Mbappé à droite avec Hakimi, Barcola à gauche et Asensio x9?
Ben, je dis arrête, pour moi Mbappé il a mis l'église au centre du village quand on l'a retrouvé un peu plus dans l'axe. Il faut c'est con, hein, t'as lâché 180, on parle le bâton pour les 10 000 balles. Il faudrait trouver un mot pour qualifier les millions. Enfin, t'en as lâché peut-être pas 180, 170 je crois.
Après,
pour deux attaquants, mais Mbappé a montré que voilà, tu le mets en neuf, c'est juste ta meilleure arme. Et tu l'utilises pas dans les meilleures conditions. Il y a un moment où on a besoin d'être un peu dangereux. Et donc, allez, c'est bon, mais on met Mbappé au centre. Alors après, comme disait Rico, si tu as Asensio et Mbappé, il est sur l'aile, là, tu fragilises un peu ton aile. Mais ça, pour moi, ça me va. Mais tu mets Mbappé, qui est très souvent axial. Et tu arrêtes de l'exiler sur l'aile.
C'est vrai qu'au Dortmund, il n'y a pas Dembélé. Moi, ce que j'attends, c'est de voir Mbappé en neuf. Quand il y aura Dembélé à droite, avec la relation entre les deux. Parce qu'on en met un à gauche, un à droite, et on nique leur relation. C'est ça qui est dommage, surtout.
Ouais, mais même s'il y a pas tout à l'heure on en parle, on dit qu'on met on s'est tous mis d'accord pour dire qu'on mettait Barco, quoi. Et tu mets Barco à droite, et dans ce cas-là, ouais,
devant on a tout dit Asensio Ramos, donc Mbappé c'est à gauche.
Oui, mais c'est ce que disait Rico, c'est dans ce cas-là tu mets Asensio et puis tu mets Mbappé, et à partir du moment où tu as Asensio, bah tu sais comment ça se passe, tu auras Asensio qui sera aussi souvent à gauche que Mbappé, et Mbappé sera complètement libre au niveau des endroits où il veut faire et de la structure de ses appels. Quand tu le mets sur l'aile, tu te prives, c'est un joueur qui a des très bons appels, et tu te prives de toute une palette des appels qu'il peut faire. Quand tu le mets sur l'aile, il est obligé de partir du côté, et quand il part de l'axe, on l'a vu, là où il part le plus à la limite du hors-jeu, et là où il est plus
Enrique nous a dit que contre le Mbappé a joué comme tous les autres matchs et qu'il n'avait pas changé de poste.
Il oui, mais Enrique, des fois, il dit que je ne comprends pas toujours. Moi.
Bon, les gars,
il n'y a pas une référence. Quoi.
Les gars,
Mbappé, c'est demi-espace gauche, quoi. Mais il lui faut quelqu'un dans l'axe.
Ouais, mais voilà, c'est demi. Mais pas ailier, quoi. Pas ailier.
Le but du question-réponse, c'est de donner des questions-réponses rapides et concises pour répondre au maximum de questions possibles de nos abonnés. Donc, déjà, il y a Edar Paqueta qui nous dit le partenaire américain. Et ces 500 millions, ça va servir à quoi? Qui veut y aller?
Ah bah, investir directement. Investir. Alors, tous ceux qui pensent que c'est la fin de QSI, au contraire, c'est tout l'inverse, justement. Et ça va être des liquidités pour investir, nouveaux stades, d'autres projets, etc.
Alors, tous ceux qui pensent que c'est l'inverse, en fait, c'est juste que les arguments sont toujours les mêmes pour ceux qui pensent qu'il peut y avoir des engagements, comme ceux qui pensent qu'il ne va pas y avoir des engagements. En vendant 12% des parts, déjà tu vas augmenter l'action PSG, donc
ça va valoriser le
club. Cet argent va être remis dans la construction d'un stade qui va encore plus valoriser l'action PSG, et donc ensuite tu peux faire une énorme marge en revendant le club petit à petit. Donc tu vois, si tu peux le voir dans les
deux mais côtés, la marge elle est déjà énorme là en vrai.
Quoi?
La marge elle est déjà énorme là. Ils ont repris, on veut aller quoi? Ils ont payé combien? 40-50 millions. Aujourd'hui on est à 4-5 milliards, ils peuvent déjà vendre.
Moi, je rejoins Drake Signo, et je pense que le Qatar devrait racheter Paris Central, voilà, tout simplement.
Alors, ce serait une bonne idée, on devrait faire une manif.
Et moi, je trouve que...
Démissionne.
Je tiens notre ligne indépendante.
Ils ont pile poil la somme que je demanderais pour le vendre.
Donc, j'ai un final, de gauche, je reste de gauche. Je ne veux pas de Qatar à Paris Central.
quelle autre question qu'il y avait? J'en ai mis une autre. Les pronos pour ce soir, les gars, face à Nantes.
Je dirais 3-0 ou 3-1. 3-0, je pense, clean sheet de Tenas. Allez.
Drayas, Basto.
2-0.
2-0, mais Gourvenec, il est chiant quand il fait ses premiers matchs avec des nouvelles équipes. Donc, ça peut être soit un vieux
c'est Gourvenec.
Bah ouais, c'est Gourvenec qui vient de battre Nice. Depuis un match, il a battu Nice qui n'avait jamais été mené au
score. Gourvenec, il sait faire jouer ses équipes en plus.
Par contre, il manque un joueur important.
Il y a le fameux cercle vicieux de Nantes qui m'avait fait marrer quand ils ont viré Aristou. C'est vont prendre un Gourvenec, un Comboiré et machin, vont faire 5 points en 3 matchs avec 0 but encaissé, vont avoir un an de résultats de jeu de merde, puis être viré, puis etc., etc. Et donc là, vu qu'ils ont déjà pris 3 points sans prendre de but, il leur manque 2-0-0 dans les deux prochains matchs. Donc, tu vois ça Non, je vais quand même dire 2-0 Paris. Mais...
Ok, moi je vais dire 3-1. Je pense que c'est une question que tu vas kiffer, Basto. Je ne suis pas l'OL, mais il serait judicieux de prendre Cacré pour le relancer ou pas?
Non, Cacré il y a 2-3 ans. Après sélection, on aurait pu, mais là il s'est un peu empêtré dans ce lion-là. Et même si c'est le moins pire de leur milieu, il n'arrive pas non plus à être. Non. J'aime bien ce joueur, mais non.
Alors, Reggie, ta question, elle est très. Très bien, mais pour éviter qu'on fasse 20 minutes de live, en plus, je vais donner l'exclusivité à Rico pour y répondre.
Oh non!
Bah si. Parce
qu'il... Oh non.
Bah si.
Et j'ai pas de problème. Colo aujourd'hui, moi, t'as vu, je suis calme en podcast, je mets tout sur Twitter, moi.
Oh non.
Le problème, c'est qu'il est passé de Francfort au Paris Saint-Germain, il revient en France, il y a beaucoup d'attentes, il a été décisif en finale de Coupe du Monde, donc il y a encore plus d'attentes. Il y a des premiers matchs qui se passent pas très bien, donc il y a une perte de confiance. Techniquement, c'est pas le plus fiable non plus, donc forcément, il est encore plus mauvais techniquement, et donc voilà, c'est toute une roue comme ça qui une spirale négative. Et aujourd'hui, je pense qu'il a du mal à en sortir, même s'il a la confiance des coéquipiers et du coach. Je pense que c'est pas évident pour lui. Donc voilà, tout est une histoire de confiance aussi, surtout pour les attaquants. Donc je pense que c'est surtout ça plus que le manque de qualité. Après, c'est un jeu qui est pas forcément adapté pour lui aussi. Donc
je rajoute une question de fin de live. Voilà, je réponds pas, je rajoute juste une question. Donc en fait, pour toi, Rekoba, le souci de Kolo Muani, c'est juste un temps d'adaptation et techniquement, il va devenir bon.
Non, le souci, c'est un tout. C'est une équipe, un jeu d'équipe qui n'est pas adapté pour lui.
Est-ce que techniquement, il va devenir
bon ? Je l'ai dit. Non, j'ai dit que techniquement, déjà, c'était limité de base. De base. Et que du coup, avec la confiance...
J'aurais fait ça en 5 secondes, moi.
Exclusivité, Rekoba, sur la question, j'avais dit. D'ailleurs,
laisse-moi 5 secondes, s'il te plaît.
D'ailleurs, les gars, vous êtes 262 et il n'y a que 70 likes, donc s'il vous plaît, likez. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais faire un deal avec vous. J'aimerais faire un marché avec vous. Je vais juste vous demander de liker, de vous abonner à toutes nos plateformes, que ce soit sur Spotify ou que ce soit sur YouTube. Et en retour, on fera les meilleurs podcasts possibles sur le Paris Saint-Germain. Plus vous likez, plus on a des moyens pour que ça soit de mieux en mieux. Donc faites cette partie-là et nous, on s'occupera de monter en gamme d'ailleurs. Mercredi soir, ne ratez pas le débrief.
Et si je peux me permettre, 250 en direct et 70 likes, il y a vraiment des rats qui nous m'attend. Parce que ça
beaucoup de Marseillais, hein, comme Thiago.
Et vous êtes là depuis une heure, en fait, les gens. Donc, mettez votre like, puis c'est tout.
Ok.
D'ailleurs, il n'y a pas Thiago dans le chat pour nous dire contre qui joue Marseille ce week-end.
C'est... En fait, il reste 3 victoires en plus, il devrait être là.
C'est pour ça, en fait, son équipe a commencé à gagner. Donc, du coup, il va revoir les podcasts marseillais parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à regarder.
C'est pas ça, Mister, tu verras.
Du coup, les gars, c'est vrai qu'on n'a pas fait les pronos pour Dortmund. Quel score que vous voyez pour ce match ?
Je pronostique pas,
moi. Moi, je vois 2-1, moi. 2-1 pour le PSG.
Ah, ce serait magnifique, un 2-1. Genre, je ne sais pas si vous vous rappelez le 2-1 contre l'Atalanta. Moi, il y a un match comme ça. Je crois que je casse tout. D'ailleurs, pour ne pas vous gâcher la surprise, mais mercredi, on va tous regarder le match ensemble. J'espère vraiment ne pas vivre un match comme ça. Enfin, j'espère vivre un match comme ça parce que ce sera encore mieux à plusieurs.
Et t'auras Dryas en oreille gauche, en oreille droite pour te dire des mots doux sur Kolo Muani.
Et le truc, c'est que t'as oublié une question dans le truc, et elle était bien, cette question. Elle est bien, cette question, en plus.
Bon, on va terminer avec cette question-là, parce que je vois que vous n'avez pas beaucoup de questions dans le chat. On va terminer avec ça, après on va vous laisser. En cas de défaite face à Dortmund, est-ce que le Paris Saint-Germain est en crise ? Vas-y, Darius.
Pour moi, non. Ça dépendra de ce qui se passe derrière. Mais en fait, on sera en crise immédiate. C'est-à-dire que tout le monde sera « Ah, c'est déçu. Ah, la saison est terminée. » Mais tu auras l'occasion de la racheter. Et fondamentalement, par rapport à toute l'idée à Luis Enrique en construction, c'est pas forcément une mauvaise chose. L'enjeu, après, ce sera de faire une belle campagne en Europa League. Tu auras une petite crise ponctuelle parce que tout le monde attend la Ligue des Champions. Puis on a été cadenassé dans la tête avec la Ligue des Champions, surtout protéger Qatari. Mais fondamentalement, passer ça, tu fais une bonne Ligue des Champions. On parle tout le temps que Luis Enrique a besoin de temps. Là, il va avoir le temps. Il va avoir un peu plus d'espace et un peu moins de pression pour créer ça, même si la pression, elle sera là. Mais elle sera toujours moins forte que lors d'un demi de Ligue des Champions. Et donc, moi, je ne vois pas du tout de crise, en fait, si jamais tu es reversé en Europa League.
Rico, t'avais dit que ta réponse elle était très très longue, donc vas-y, on te laisse.
Je vais essayer de faire court. Pour moi, ce sera un énorme échec, clairement, parce que, ok, c'est une reconstruction, mais regarde les joueurs que t'as, regarde l'effectif que t'as, regarde l'entraîneur que t'as. Mine de rien, même si c'est la poule de la mort, t'es le favori de ce groupe, t'es le meilleur effectif de ce groupe. Donc, tu es censé au moins te qualifier au moins deuxième. L'année dernière, bon, on fait une campagne minable, mais on se qualifie au moins deuxième. Pour moi, ce sera un terrible échec. Tu as investi aussi beaucoup d'argent. C'est pas normal d'être versé en Europa League quand tu es le Paris Saint-Germain. Ça peut arriver, donc ce serait pas une catastrophe industrielle non plus. Et on se contentera de faire un parcours en Europa, on essaiera d'aller chercher le trophée. Et dans tous les cas, on va laisser du temps aux hommes, à Luis Enrique et aux joueurs, et puis on essaiera de s'ajuster. Mais en fait, le truc, c'est que on peut pas se satisfaire non plus de ça et de dire que non, ce serait pas un échec. Ce serait un cruel échec. Tu as fait tourner le projet autour d'Mbappé, tu as viré tout le monde à côté pour justement faire performer Mbappé et l'équipe, et au final, tu te plantes complètement. Alors, tu te fais sortir en huitième, en quart, etc., pas de problème. Mais ne pas sortir des poules, pour moi, c'est trop grave. Et la dernière chose, c'est que le Barça, Liverpool, parce qu'on prend souvent ces exemples-là, le Barça, Liverpool, etc., qui ont déjà été reversés en Europa, on a dit, oui, mais regardez, eux, ils ont déjà été en Europa et puis ça ne les a pas empêchés de revenir, etc. Bien sûr, et le PSG reviendra. Il n'est pas là le problème. Mais vous pensez que les supporters du Barça, de Liverpool, etc., ils étaient contents quand ils ont été en Europa League et ils se sont dit, oh, bah ça va, on va pouvoir aller en Europa et on va pouvoir peut-être gagner ce trophée et ce sera une bonne chose. Et non, ils n'étaient pas contents et ils sont exigeants, c'est normal, c'est un grand club. Ils n'ont rien à faire en Europa League.
Et d'ailleurs, Rico, un terrible échec. Et d'ailleurs, Rico, je veux dire, trois ans après, ils étaient dégoûtés d'avoir gagné l'Europa. Hein. Je les ai vus passer les messages, ils étaient, oh putain, fais chier, on l'a gagné. Oh mais merde, arrête, non, c'est dur.
Arrêtons, quand le PSG est une des meilleures équipes d'Europe et qu'on est la Coupe des Coupes, on était malheureux. Bah non, c'est un des moments.
Non, mais je dis pas combien de temps. Pour Franck, combien de temps, la question n'est pas là, combien de temps, mais juste, ils n'ont pas été en Europa League, Manchester City. Mais bien sûr que ça va prendre
non.
du temps.
City, non, mais Liverpool, quand le club voilà. il commence par une finale d'Europa, etc. Enfin, etc. Non, il la gagne même. Non.
Je sais plus. Non, je crois qu'il la perd. Il la perd contre Unai, je crois. Il la perd contre Unai, il me semble.
Je sais plus. Oui, c'est ça. Moi, je peux répondre à la question rapidement.
C'est laquelle?
Bah, la dernière, pas celle sur Colo. Charles, sur est-ce que c'est la crise?
Mais oui,
bien sûr. Vas-y.
Oui, Rico a dit on a le meilleur effectif sur le papier. On a peut-être le meilleur effectif, mais on a peut-être l'équipe qui est la moins cohérente et qui a le moins de cohérence entre les lignes, entre la diversité des profils, etc. Et aussi le coach et ces profils-là. Donc, pour un moment, ce serait plus un échec de Campos, il faut le dire, hein, qui nous raconte ces fameux puzzles. Le plus important, c'est les puzzles et il prend que des pièces carrées pour essayer de faire des ronds. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ce serait pas une crise, non, parce que si t'es pas qualifié, on a vu les matchs, c'est juste que t'as le niveau Europa League en fait. Voilà, il faut se dire, actuellement on a une équipe qui a le niveau Europa League. C'est pas grave.
Et très rapidement, ouais, bah complètement. Parle de ton milieu. Essaye de construire un milieu qui est parfaitement cohérent au Paris Saint-Germain. Bah, si tu n'y arrives toujours pas et il te manque de manière drastique un milieu créateur. Et bien sûr qu'on a un petit peu plus d'argent que les autres, mais sur les autres lignes, en cohérence d'équipe, on en est loin. Et en termes de niveau, quand tu prends notre niveau haut sur cette saison, est-ce qu'on a vraiment un niveau Ligue des Champions? Bah, moi, j'attends toujours, encore une fois, depuis le début de la saison, on n'a pas encore un match référence. Et par rapport à ce que disait Mister T, c'est ouais, il y a une différence. Alors, j'affiche juste son message, Nix. Il y a une différence entre être qualifié en Europa et être versé. Mais ça, c'est quand ça se produit. Après, c'est à toi d'écrire l'histoire. Si tu écris une bonne histoire en Europa, bah, si tu y arrives en étant reversé ou en étant qualifié, tu t'en moques, en fait. Parce que, à la limite, être qualifié, c'est pire. Ça veut juste dire que tu as fini troisième de ton championnat. Donc, c'est vraiment pas si excitant que ça. Et ça sera à toi de faire. Après, c'est clair que si tu vas en Europa et que tu fais une mauvaise campagne d'Europa et que tu n'arrives pas à avoir des matchs références là, ça te coûtera cher. Mais il va falloir que tu ailles les chercher, les matchs. Mais si tu vas les chercher, bah, à l'arrivée, à la fin de la saison, tu auras l'Europa, ça sera l'occasion, tu auras acquis de l'expérience, tu auras gagné des choses, et ça sera à toi de les traduire après en Ligue des Champions.
Moi, je ne suis pas d'accord avec Basto sur le groupe. Newcastle, c'est la première fois qu'ils viennent en Ligue des Champions depuis X années. Ils ont pas mal de jeunes joueurs et de joueurs qui étaient dans le ventre mou de PL il y a quelques années. Dortmund, ils se font piller chaque année leurs meilleurs joueurs. Ils ont plein de jeunes qui jouent pour la première fois la Ligue des Champions. Ils n'ont aucune garantie défensive. Même en championnat, c'est très compliqué. C'est de loin dans les meilleures attaques et de loin dans les meilleures défenses. Donc, c'est très compliqué pour eux aussi. Ils sont, je crois, cinquième là en ce moment. On a le Milan qui a perdu Brahim Diaz, qui a un an de plus aussi pour Giroud, qui a une défense où ils ont perdu du monde, où ils n'ont pas joué de la phase de groupe avec leurs meilleurs joueurs, donc Bennacer. Donc, à un moment donné, je trouve qu'on est largement au-dessus normalement. Après, effectivement, oui, le fait d'avoir changé beaucoup de joueurs, etc., et de coach, ça ne nous aide pas. Mais je suis désolé, en termes d'effectifs, on est largement au-dessus.
Tu peux pas comparer un effectif de papier et un effectif de terrain, quoi.
Non, mais juste, bon, je suis d'accord. Quand il y a eu le tirage au sort, j'ai
mais
dit
sur
que
le terrain, ils ont vraiment plus de garanties.
Tirage au sort, Rico, j'ai dit que je vais le payer. Oui.
Mais dis, c'est pareil, Basto, pareil. Tu vois, faut prendre un bon micro, Basto, parce que tu vois, genre, limite, en direct.
Ouais,
vas-y.
On l'a entendu, celui-là. Là, je dis, quand
il y a eu le tirage au sort. Je sais pas ce que tu penses.
Il y a des gens qui nous écoutent, Basto. Ne fais pas ça. Allez, continue.
Seb, chute. Quand j'ai eu le tirage au sort, je vais finir le PSG premier de cette poule, mais avec un total d'une dizaine de points seulement. J'avais dit que c'était quatre équipes assez faibles. Je ne change pas mon avis là-dessus. Oui, Dortmund, Newcastle et Milan sont des équipes, comme tu l'as dit, assez faibles. Mais le PSG, pour moi, est une équipe niveau Europa League. Et je le pensais déjà plus ou moins en début de saison. On n'est qu'au début d'une reconstruction d'une nouvelle chose. Donc non, pour moi, il nous manque beaucoup trop de joueurs, et il y a beaucoup trop de joueurs surcotés aussi, ça c'est un autre débat.
C'est bon, ok. Bon, on va s'arrêter là. J'ai juste une dernière question existentielle à vous poser, les gars. Juste avant ça, je rappelle, demain, il y a une vidéo à 11h, donc ne la ratez pas, mettez la cloche, abonnez-vous. Exceptionnel entre Rico et Tonton. Et mercredi soir, ne ratez pas le débrief, s'il vous plaît, parce qu'il va être plutôt pas mal. Dernière question, les gars, pour terminer ce live. Non, c'était pas ça.
C'est qu'il a pas de niveau.
Voilà. Non, la dernière question, c'est celle-là. On met les laits ou les céréales en premier?
Les céréales.
Je mets pas de lait dans les céréales. Donc.
Dryas, ton micro, il est coupé.
Je disais, ça dépend si tu prends la poitrine ou l'œuf. Si tu préfères la poitrine ou l'œuf.
Quand il sort, what, carton rouge.
What?
J'ai pas la règle.
Bah,
L'œuf et la poule, putain.
Ah,
non, mais tu mets les céréales, comme ça, tu as ta bonne dose de céréales, et puis après, tu mets ton lait pour adapter le niveau aux céréales, tout simplement.
Non, moi, je mets le lait avant. Moi, je mets le lait avant, et après, tu mets les céréales que tu veux. S'il n'y en a pas assez, tu rajoutes.
On aura quand même appris que Ricoba aime bien
ça. Moi, je mets la bière, puis les céréales.
Ok. En plus d'être gauchiste, oh mon Dieu. Le pauvre. Bon, il y a pas mal de gens qui disent céréales. Il y a juste Djokovic qui dit qu'il met de la vodka. Donc, on va te faire tes petits déjeuners, bed and breakfast avec Basto. Et puis,
après, ça dépend si tu chauffes ton lait, en fait. Parce que si tu chauffes ton lait, tu mets d'abord le lait dans le bol, tu le chauffes, et puis après, tu mets les céréales. Voilà, moi, je le mange froid.
Il y a tellement de vannes à base de se faire milquer qui me passent dans la tête. Là, il faut arrêter le débat, en fait.
Bon, allez,
sur ces, les gars. N'oubliez pas qu'ici c'est Paris, bon match. Ah, d'ailleurs, débrief aussi ce soir avec Tonton. N'oubliez pas, 23h. Ciao.